Eh bien, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue pour cette conversation particulière avec Marc Lévy. Je suis très, très heureux d'animer cette rencontre d'environ 40-45 minutes. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de vous présenter? Je crois pas, hein. Ça fait plus de 20 ans, plus de 20 romans que vous êtes l'auteur français le plus dans le monde, célèbre dès votre premier roman, Et si c'était vrai, qui a eu le droit à son adaptation à Hollywood. Des romans comme Les Enfants de la Liberté, Un sentiment plus fort que la peur, L'horizon à l'envers, et une trilogie que vous venez de conclure cette année, la trilogie 9, une première série au cœur de votre œuvre qui est fournie, et surtout une plongée presque documentaire dans le monde des hackers, des lanceurs d'alerte et des multinationales de la tech, dont je rappelle les tomes C'est arrivé la nuit, Les crépuscules des fauves et Noah cette année. Vous faites également paraître, à la fin du mois, il me semble, un nouveau roman, Éteignez tout et la vie s'allume. On prendra le temps d'en parler un peu, que vous nous racontiez de quoi il en retourne. Eh bien, on va commencer par une question simple. Comment allez-vous, Marc Lévy? Est-ce que vous êtes un habitué de Brive?
Bonjour. Habitué, j'irai pas jusque-là, mais c'est pas la première fois. Je crois que c'est la troisième, deuxième, troisième, je ne sais plus. Troisième? Troisième.
Ah, il y a des habitués.
Troisième. Donc c'est ma troisième. Ouais, donc oui, ça commence.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ou de c'est quand même un événement littéraire qui attire beaucoup de monde et qui où on peut s'adresser au public, les rencontrer. C'est des choses que vous aimez, vous, les salons, les rencontres avec vos lecteurs?
Oui, moi j'aime beaucoup. Et c'est un salon très vivant en Brive. Enfin, il y a énormément de monde. Il n'y a pas beaucoup de salons comme ça qui drainent autant de monde dans un espace finalement. Il y a une grande concentration de monde. Donc c'est assez très joyeux. Et puis bon, la nourriture est, comme on le sait, pas très bonne. Et je crois que j'ai plus mangé en 2 jours que je n'ai mangé depuis le début de l'année. D'où la fatigue qui pèse sur moi au moment. Voilà, mais non, non, c'est très agréable d'être là. Après, je dois vous dire que le train pour venir jusqu'ici est un peu long, mais c'est-à-dire que c'est quand même un. Vous voyez, on a fait l'échelle de temps, c'est l'équivalent d'un vol Saïgon-Séoul, donc, mais sur une distance beaucoup plus courte. Et. Hein? Oui, c'est incroyable. On a l'impression en plus que le chauffeur du train, il hésite, il se dit j'y vais pas, je repars, je veux pas y arriver tout de suite. Et c'est ça.
Faut le prendre comme ça,
Ça, une fois qu'on
exactement.
a passé Limoges, c'est ce qu'on se dit. On se dit, là, je l'ai vraiment mérité. Mais voilà. Mais sinon, non, je suis très heureux d'être là. Je reviendrai l'année prochaine.
Et ben voilà une bonne nouvelle. Alors, plongeons dans votre. On va d'abord parler de la trilogie, puisque c'est vraiment celle qui est d'actualité, et le livre sortira un peu plus tard, à la fin novembre. Déjà, j'ai commencé par dire que c'était une série un peu à part, peut-être dans votre œuvre, qui en tout cas explore des territoires et peut-être un genre littéraire qui est un peu différent. Est-ce que c'est important quand on mène une carrière d'écrivain au long cours, d'aussi avoir des petits moments de bascule comme ça, de faire des choses à la fois inattendues pour vous en tant qu'écrivain et inattendues pour le lecteur?
Moi, j'ai quand même beaucoup basculé. Hein. J'ai vraiment beaucoup, enfin, souvent changé de genre. Donc,
Et c'est un moyen justement pour vous de garder un peu cette flamme, à la fois pour vous pendant que vous écrivez et pour vos lecteurs? Toujours la surprise?
je crois que c'est sur. Ouais, enfin, c'est un moyen de trouver du plaisir. Moi, j'aurais pas eu. Enfin, j'ai jamais fonctionné vraiment à la peur. J'ai toujours fonctionné à l'envie. Mais il y a un côté, comment vous dire, dans ce métier, il y a un côté qui est très joyeux, enfin qui est très improbable, c'est que finalement aujourd'hui, j'ai fait de mon métier ce qu'on me reprochait à l'école. Sur mes bulletins, il y avait tout le temps marqué élève rêveur. On aimerait bien qu'il soit là en classe quand il est là. Et mes parents, je me faisais punir, vous voyez, parce que j'étais distrait et rêveur. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Donc, autant, je veux dire, autant en profiter. Oui, si vous êtes cuisinier et que vous passez votre vie à faire le même plat, au bout d'un moment, vous pouvez vous demander, mais est-ce que j'ai vraiment exploré toutes les joies que peut m'apporter mon métier? Et je crois que le cuisinier curieux, c'est un cuisinier qui aime aller, vous voyez, enfin, essayer de nouvelles recettes, chercher des épices, chercher des saveurs. Donc il y a une partie. Alors, bien sûr, c'est, comment vous dire, pour l'éditeur, c'est beaucoup plus compliqué. Pour l'auteur, c'est plus compliqué. Parfois même, je veux dire que si TF1, vous voyez, pendant 25 ans, tous les lundis, mettait le même épisode de la même série criminelle, c'est parce qu'il y a quand même une certaine appétence chez l'individu à avoir des repères, des habitudes et d'aimer les choses. Mais je sais pas, j'ai toujours eu envie de ça. Il y a un vrai bonheur d'escalader une montagne sans savoir si on va y arriver. J'admire énormément Agatha Christie, ce qui est un de mes auteurs phares. J'ai eu la chance d'être son voisin, pas au même siècle, mais pendant que j'habitais à Londres, tous les matins quand j'amenais mon fils à l'école, je passais devant la maison où vivait Agatha Christie, qui était à deux maisons de la mienne, et chaque matin, je la saluais humblement. Parce que c'était, c'est quand même quel esprit créatif. Et je comprendrai, plus j'avance dans ce métier, et c'est un personnage qui me fascine et qui m'intéresse, plus je comprends le bonheur et la joie qu'elle a eu de vivre, aux côtés d'Hercule Poirot toutes ces années. Parce que c'est très difficile, quand on a écrit, de dire au revoir à ces personnages. Et c'est très tentant de les retrouver. Et aussi, c'est très facilitant, parce que renouer avec des personnages qui existent, vous savez déjà tellement de choses sur eux que le travail de collaboration s'engage assez facilement. Alors il y a d'autres complications, c'est que on peut pas partir du enfin on peut pas présupposer que le lecteur a lu tous les autres livres, donc il y a un travail de
prendre par la main.
Oui, non, mais il y a un travail d'équilibriste où on doit refaire exister le personnage pour ceux qui ne le connaissent pas, et en même temps on est limité, parce que si on le fait trop exister comme un personnage tout à fait nouveau, ceux qui ont lu 1, 2, 3 ou 4 tomes ont l'impression, c'était un peu le problème qu'on avait dans San Antonio, pour les fidèles de San Antonio, c'est qu'alors lui, Frédéric Dard, se posait pas de questions, mais on retrouvait dans les San Antonio une quinzaine ou une vingtaine de pages qui étaient les mêmes dans tous les romans. Bon. Bref, mais j'aurais pas pu faire comme Agatha Christie, c'est-à-dire, vous voyez, écrire aussi longtemps avec le même personnage, les mêmes. J'aurais pas su faire ça. Moi, j'ai besoin, quand j'attaque un roman, de retrouver à chaque fois la très faible probabilité d'arriver au bout, de devoir plonger dans une documentation, de devoir entrer dans un métier, de devoir comprendre, ça c'est vraiment important pour moi.
Et justement, racontez-nous un peu comment elle est née, cette trilogie, cette envie de plonger de manière assez vraiment détaillée, même très enquêtée, sur le monde des hackers, des lanceurs d'alerte.
En fait, je crois que la vérité, c'est que c'est pas le monde des hackers qui m'a attiré dans ce roman. Déplacer la problématique et parler de la France, de l'Europe en 1939, c'est pas le monde des résistants, vous voyez, qui m'a intéressé. C'est le monde de 1939 et la perception juste et très avant-gardiste qu'en avaient les résistants de la première heure, qui voyaient arriver le nazisme, qui voyaient la montée du fascisme, qui voyaient la guerre se dessiner, et qui essayait désespérément d'avertir les gens, mais qui en même temps ont été, les pères fondateurs d'une résistance, qui a commencé avant même que la guerre n'éclate. Il ne faut pas oublier que j'ai retrouvé des mécanismes consternants de similitude, c'est-à-dire que pour ceux qui sont à la salle et qui appartiennent à ma génération, on a appris à l'école les errances de Daladier, et de tous les caciques de 1939 qui disaient mais non, laissons l'Autriche à Hitler, on l'a provoqué, vous comprenez, en 14-18, on a humilié l'Allemagne, donc laissez-les, il n'a pas du tout envie de faire la guerre, il a juste envie de sauver son honneur. Et on entendait les mêmes Daladier qui aujourd'hui s'appelaient Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qui trouvaient, qui faisaient abstraction totale du génocide commis par Poutine en Syrie, des dizaines de milliers d'enfants qui ont été gazés, assassinés, des centaines de milliers de civils qui ont été torturés et qui sont morts dans les prisons de Bachar al-Assad. Et tout ça, c'était évidemment, c'est de notre faute. Vous voyez, c'était absolument pas la faute du dictateur Poutine. Donc on retrouvait les mêmes, comment dire, les mêmes mécanismes d'esprit absolument corrompu. Donc moi, ce qui m'a intéressé dans les neufs, c'est que je suis rentré dans par appétit culturel. J'ai commencé au moment où Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis, lisant énormément la presse, j'ai commencé à avoir un certain faisceau, vous voyez, de faits, enfin plutôt un certain nombre de faits qui se produisaient en France, mais surtout aux États-Unis, mais en Angleterre, mais en Italie, mais bon. En Hongrie, en Pologne, et bon, comme un certain nombre de gens étaient très au fait de ça, ça a déclenché une espèce d'alarme où je me suis dit, c'est quand même bizarre. Alors ça, au début, ça paraissait tellement improbable qu'il y a un lien entre ces faits. Et puis, vous commencez à enquêter, vous commencez à vous documenter, et puis vous vous rendez compte que tel crime de corruption et tel autre crime de corruption, ça c'est marrant, il y a 2-3 personnes qui se connaissaient dans les deux, et qui ont des liens, et qui ont fait des voyages, et qui se sont rencontrés, et comment vous dire, c'est comme ça que peu à peu, en suivant d'ailleurs le travail de grands reporters qui s'intéressaient aux mêmes faits, j'ai découvert qu'il y avait, comment vous dire, une internationale de la corruption qui s'était établie, comme à un moment donné, on a découvert que les réseaux mafieux qu'on croyait totalement indépendant, mais finalement avait tissé des liens et qu'il y avait un crime international organisé qui s'était établi. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une oligarchie internationale qui avait tissé des liens, des gens qui d'ordinaire ne s'aimaient pas, mais qui avaient finalement été convaincus que leurs intérêts passaient par des formes d'alliance. Et je me suis rendu compte, 2 ans avant l'écriture de C'est arrivé la nuit, que des forces extrêmement puissantes économiquement, après avoir acheté les grands pans des économies des pays, étaient en train de déconstruire les démocraties dans ces pays pour s'acheter les richesses de ces pays en s'inspirant du modèle de ce qui s'était passé à la chute de l'Union soviétique. Moi, je travaillais en Russie à l'époque, j'allais travailler en Russie à l'époque, et où, au moment de la chute de l'Union soviétique, l'arrivée de l'autocratie en Russie s'est faite parce qu'on a partagé littéralement les grandes richesses du pays au sein d'un certain nombre d'individus qui sont devenus des oligarches, et que c'est comme ça que fonctionnent les autocraties, c'est-à-dire il y a un autocrate et puis autour de lui il y a un réseau d'oligarches, de princes qui vivent dépendants de l'oligarche, dépendants de l'autocrate, puisque c'est lui qui leur a donné la richesse. Donc ça fonctionne pareil dans les pays moyen-orientaux, sauf que là c'est décidé par... par les descendances princières et les chefs de clan. Mais voilà comment ça. Donc voilà. Et j'ai vu que ça commence à s'installer aux États-Unis. Et donc, quand j'ai vu que ça s'installait sous Trump aux États-Unis, je me suis dit, mais en fait, Trump est en train de s'inspirer du modèle russe et du modèle moyen-oriental. Et c'est ce qu'il est en train, avec les républicains, de construire aux États-Unis dans le but. De faire de l'Amérique non plus une démocratie, mais une autocratie capitaliste. Comme tous ceux qui le pensaient, on ne s'est pas trompé, puisque c'est ce qu'il a vraiment essayé de faire. Et d'ailleurs, ça s'est conclu par la tentative de coup d'État du 6 janvier. Et s'il revient au pouvoir, cette fois-ci, il y arrivera. Parce que la puissance des oligarches qui soutiennent la disparition de la démocratie aux États-Unis est devenue tellement importante. Et à côté de ça, la réaction des démocrates, elle est tellement molle. Que s'ils y arrivent, la bascule se fera, oui.
Il y a une figure, vous avez commencé à l'évoquer, mais qui a servi à la fois de source d'inspiration et puis qui a même nourri un de vos personnages, c'est cette fameuse Carol Cadwallader. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est aussi, il y a des journalistes qui vouent leur vie et qui aussi mettent leur vie en péril pour justement nous raconter ça, essayer de nous raconter la vérité de ce qui se passe.
Mais il y en a qui meurent. Hein. Si vous saviez le nombre de journalistes russes qui sont morts en essayant de nous prévenir que Poutine avait l'intention d'envahir l'Europe et qui ont été assassinés. Et c'est extrêmement important. Je donne le chiffre du nombre de journalistes qui sont assassinés chaque année. Et à chaque fois, les journalistes qui s'intéressent à une cause sont assassinés par, euh, par les mêmes criminels. Donc, par exemple, en Amérique du Sud, les journalistes qui se sont intéressés de trop près aux agissements de Bolsonaro sur la forêt, sur la forêt amazonienne ont été assassinés. Au Mexique, ceux qui se sont intéressés aux liens qui existaient entre le gouvernement et les cartels de drogue ont été assassinés. En Russie, bon, bref. Donc, oui, c'est très dangereux. Le profil Carole Cadwalla, elle est... comment vous dire, ses travaux ont été extrêmement importants dans l'écriture de ces deux romans parce que d'abord j'ai découvert en elle une alliée qui me permettait de me dire que j'étais pas fou. Je m'explique, quand Facebook a commencé à grandir, moi je disais aux gens autour de moi, mais vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe, mais qu'est-ce que vous foutez sur Facebook? Je ne comprends pas. Alors, je parlais à des amis, mais vraiment à des gens comme vous, et qui avaient leur compte Facebook. Et je disais, mais enfin, écoutez, deux secondes, vous allez chez l'épicier, et vous dites à l'épicier, je voudrais acheter un kilo d'orange. Et l'épicier vous dit, oui, très bien. Alors, attends, avant que je vous donne vos oranges, je vais vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre sexe. Je voudrais le nom de vos enfants, votre date de mariage. J'aimerais savoir tous vos centres d'intérêt. J'aimerais savoir ce que vous avez lu la semaine dernière, ce que vous allez lire la semaine prochaine, ce que vous êtes allé voir au cinéma. J'aimerais bien aussi la liste des produits pharmaceutiques que vous achetez. Vous me remplissez ce formulaire, vous revenez, je vous donne vos oranges. Là, vous allez dire, mais il est fou le type. Enfin, ce type est malade. Puis en quoi ça vous regarde? Et puis non seulement vous allez faire ça, mais... normalement, vous allez même aller au commissariat de police en disant, écoutez, il y a un épicier qui vient de s'installer et je pense franchement que le type est fou. Eh bien, tout le monde fait ça sur Facebook. C'est-à-dire que la gratuité, c'est ça, en fait. Sous prétexte d'utiliser un service gratuit, on a accepté de donner nos vies. Puis alors, on poste les photos de nos enfants, le mariage, les bébés. On a tous fiché nos gamins. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait. Mais je veux dire, 80% de la population a fiché ses gamins dans les fichiers de Facebook et de Zuckerberg, sur Instagram, sur... alors, à l'époque, tout le monde disait, oui, mais bon, c'est pour... les données, c'est pour la pub, en fait. C'est pour nous rendre service, c'est pour nous donner des pubs moins chiantes, quoi. Des pubs qui nous intéressent plus. Donc, c'est pour ça qu'ils font ça. C'était pas crédible que ça soit pour la pub. C'était pas crédible. C'était pas possible. On ne pouvait pas construire une boîte qui pèse des milliards et des milliards de données pour des pubs soi-disant juste ciblées. Alors des journalistes, des gens qui travaillent en informatique ou des journalistes comme Carole, Bridge, ont commencé à s'intéresser à ce qu'il y avait derrière. Et puis on s'est rendu compte, par exemple, que d'une chose dont le public n'était pas au courant, c'était ce qu'on appelle les entreprises de métadonnées. Alors en fait, quand vous allez sur Internet et puis à chaque fois que vous acceptez des cookies... Alors ça, c'est aussi un mot. Je ne comprends pas que la Commission européenne...
ça a l'air gentil comme ça.
Non, mais accepte l'utilisation de ce mot. Parce que si vous dites que des cookies sont des cookies, moi, je vous dis, il faut dire aux enfants aujourd'hui que le cannabis, c'est des sucres d'orge. Il faut leur dire que l'héroïne, c'est du pastis. Et dans ce cas-là, oui, ça va bien. C'est-à-dire que l'usage des mots n'a plus aucune importance. Les cookies, le vrai mot de cookie, un cookie, c'est un mouchard espion qui, une fois qu'il est intégré dans votre navigateur... traque chacun de vos mouvements, chacun de vos lectures, chacun de vos achats, vos numéros de carte de crédit et toutes vos informations personnelles. Quand vous allez sur le site d'un journal, même La Montagne, même le Guardian, Le Monde, et qui a marqué « Est-ce que vous acceptez les cookies ?» Eh bien, ça veut dire « Est-ce que vous acceptez de nous, enfin, qu'on ait accès à la totalité de votre vie privée ?» Et même d'ailleurs à ce qu'il y a dans vos mails. Et vous ferez l'exemple, hein, si ça vous intéresse, avec vos téléphones portables. Hein, j'imagine qu'il y a très très peu de gens qui ont des perroquets dans la salle. J'ai pris cet exemple parce que c'est assez rare qu'on ait des perroquets. Eh bien, faites l'expérience dès demain, pendant 3-4 jours, près de votre téléphone portable. Dites que vous avez l'intention d'acheter un perroquet. Et vous me direz combien d'entre vous, le cinquième jour, ne voient pas apparaître sur leur fil Google des pubs de nourriture et de cash pour perroquets. Donc ça, c'est... Alors tout ça, vous allez venir encore, on est dans le domaine de la pub. Et là où Carole Cadwalla devient extrêmement passionnante, c'est qu'elle s'aperçoit qu'en réalité, les grands groupes, hein, dont Facebook, ont créé des entreprises qui collectent, hein, toutes ces milliers d'informations qu'on appelle les poussières, Et en fait, ils les agglomèrent pour reconstituer des profils. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez sur le site de La Montagne, sur le site d'une pharmacie en ligne, sur le site de Carrefour, sur le site de Bricorama, à chaque fois, vous vous dites « Non, mais c'est pas lié. » Donc, c'est pas grave. À chaque fois qu'il y a sur Facebook un petit questionnaire, vous vous dites « Non, mais c'est pas lié. » En fait, c'est lié. Parce que vous avez, sur la toile, vous avez en fait un matricule. Vous ne le savez pas, mais on a tous un matricule. Et il y a des sociétés qui génèrent un marché qui se calcule en milliards de dollars chaque année et qui consiste à reconstituer tous les profils de chaque personne. Alors, je vais terminer sur cette réponse. Moi, je fais partie de la génération qui a vu le mur de Berlin tomber. Quand le mur de Berlin est tombé, un des grands traumatismes dans la jeunesse de notre époque, ça a été quand les Allemands de l'Est sont rentrés dans les locaux de la Stasi. Quand ils sont rentrés dans les locaux de la Stasi, ils ont découvert que la Stasi avait des fiches sur les gens. Moi, j'y suis allé à la Stasi, figurez-vous. Et j'ai vu les dossiers sur les gens. Allez, je pense qu'il n'y a pas dans les dossiers de la Stasi 5% de ce que Facebook a sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, y compris de ce que Facebook a sur les gens qui ne sont pas sur Facebook. Parce que comme on parle de nos amis, on poste des photos avec nos amis et qu'on les tague, et que même quand ils n'ont pas de compte Facebook, on les tague avec leur nom, etc. Et finalement, cette économie digitale, elle a réussi en moins d'une génération à faire disparaître une chose qui était un fondement de la démocratie, c'est le mot vie privée. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de vie privée. Et Carole, elle s'est intéressée à ça. Et après, elle s'est dit, mais ils en font quoi exactement ? Et cette très grande reporter est à l'origine d'une découverte vraiment importante, qui est celle du scandale de Cambridge Analytica. Et le scandale de Cambridge Analytica, c'est le moment où Facebook a donné à un parti politique d'extrême droite les données de 50 millions d'utilisateurs anglais, et que ce parti d'extrême droite s'est servi des données des 50 millions d'utilisateurs anglais pour faire ce qu'on appelle du micro-ciblage. Et le micro-ciblage, c'est une technique qui est connue par les services psychologiques des armées de l'Ouest depuis 1914. Le micro-ciblage, c'est quelque chose qui consiste à partir du moment où je connais vos centres d'intérêt, à partir du moment où je sais ce qui vous insupporte, et à partir du moment où je sais vous voyez le bouton sur lequel on appuie chez vous, on en a tous un de bouton sur lequel on appuie, eh bien, croyez-le ou pas, je peux vous manipuler entièrement. Et je peux manipuler vos informations. Je peux manipuler votre opinion politique. Pourquoi ? Parce que je peux vous alimenter en micro-informations sur une certaine période, avec des micro-informations qui sont fausses. Et au bout d'un moment, vous allez forcément croire qu'elles sont vraies. Et ça va forcément modifier votre opinion politique. C'est, l'application scientifique du phénomène de la rumeur. Vous voyez, votre voisin que vous connaissez depuis 40 ans... et qui est un type adorable, gentil comme tout, toujours prêt à rendre service. Si vous avez une mauvaise langue qui vous dit « c'est un ancien pédophile », vous allez dire excuse-moi, mais monsieur Maurice, je le connais depuis 40 ans, donc si tu veux, tes médisances, tu les gardes pour toi. Au bout de la 20e personne qui vous le dit, vous allez avoir un doute. Le micro-ciblage sur Facebook, c'est 3000 personnes qui alimente la même rumeur. Et on n'a pas le temps aujourd'hui, mais Carole a fait des découvertes des micro-ciblages pratiqués par le parti politique d'extrême droite. Sans le scandale, sans Cambridge Analytica, les Anglais ne se seraient pas séparés de l'Europe. Ce n'est pas une phrase comme ça, vous voyez, arbitraire, ou c'est mathématique. C'est-à-dire que sans le micro-ciblage... Aujourd'hui, la plupart des élections se jouent à 3 ou 4%. Vous vous rendez compte, le pouvoir d'un parti... Donc voilà, les neufs, ce n'est pas le monde des hackers. C'est qu'aujourd'hui, la démocratie et la survie de nos libertés, elles se jouent sur la façon dont nous sommes manipulés dans un domaine où la majorité d'entre nous sommes relativement sourds et aveugles, parce qu'on n'a pas appris à coder, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Comme les Allemands de l'Est ne savaient pas ce que la Stasi avait sur eux. Mais il ils vivaient avec cette peur qu'à n'importe quel moment, la Stasi pouvait les arrêter pour quelque chose qu'ils n'avaient pas nécessairement commis. Aujourd'hui, le degré d'intrusion dans nos vies privées, le degré de manipulation d'entreprises comme Facebook, notamment, qui est une entreprise extraordinairement toxique, même si elle est un peu en perte de vitesse, qui est terriblement toxique, a eu des effets sur notre démocratie absolument considérables. Les neufs sont des résistants qui vont s'attaquer à cette criminalité. Voilà, je vous promets, les autres réponses seront plus fortes.
Non, mais c'est passionnant en même temps. Mais quels sont les profils, justement, de ces neufs qui sont d'ailleurs, il faut le dire, au passage, des personnes, alors, qui ne sont pas les mêmes, rien à voir, mais c'est des personnes qui existent dans la réalité. Ces résistants qui œuvrent dans l'ombre, justement, pour essayer de, à la fois, déjouer le jeu de ces entreprises, de ces États, et à la fois, peut-être, sensibiliser l'opinion et le grand public à ce qui est en train de se passer.
Mais en fait, ils ont le même profil qu'avaient les résistants. Les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient boulangers, menuisiers, pâtissiers, médecins, cordonniers. Et vous aviez les mêmes profils chez les collaborateurs. Donc c'est pas tellement une question ça n'est ni une question de classe sociale, de métier, d'origine. C'est une question de conscience sociale et politique. Si vous interrogez aujourd'hui, vous voyez, par exemple, moi, il y a une chose qui me... Je le dis franchement, il n'y a pas beaucoup de choses qui me choquent dans la vie. Mais par exemple, ce qui me choque, j'en parlais hier avec des gens à table, quand j'entends que des étudiants de Sciences Po, pour manifester leur mécontentement par rapport à l'offre, vous voyez, le choix politique qui leur est offert, leur mode de réaction, c'est de boycotter le vote. Je me dis, mais ils sont... Alors, vous voyez, ils auraient été à l'école vétérinaire. J'aurais dit, bon, bah écoute, leur truc, c'est les animaux. Ils sont très déconnectés. Mais là, je parle d'étudiants à sciences politiques. Mais pour moi, c'est une... c'est une honte. On parle de sciences politiques. C'est-à-dire que la méconnaissance des fonctionnements, tu vois, enfin, du fonctionnement de la démocratie, de la fragilité de la démocratie. Mais qu'est-ce qu'on enseigne à ces gosses à l'école? Qu'est-ce que foutent leurs profs? Vous voyez, mais qu'est-ce qu'on enseigne à Sciences Po? C'est impossible. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, dans une école de vétérinaire, je pourrais dire, bon, leur prof est un très très bon veto, puis il n'est pas très calé. Mais moi, je serais prof à Sciences Po après ce qui s'est passé, mais j'aurais démissionné de honte. Vous voyez, c'est Sciences Po. Enfin, c'est comme si vous faisiez, je ne sais pas, ou alors vous faites cagne et hypocagne, et puis vous sortez de 4 ans de lettres supérieures et vous ne savez pas conjuguer le verbe être. Vous voyez, là, je vous dirais, mais qu'est-ce que foutent vos profs? Donc, la fragilité de nos démocraties actuelles, elle vient aussi du fait qu'on l'a tellement considérée comme acquise. Vous voyez, il y a eu 60 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le peuple de Goethe qui a cédé aux sirènes du nazisme. C'est pas, c'est pas des fermiers dans des régions très reculées, des plaines afghanes, qui n'avaient pas eu le droit à apprendre à lire ou à écrire, qui ont cédé aux... C'est le peuple de Goethe. Donc, si vous n'expliquez pas aux enfants d'aujourd'hui que le fascisme, l'autoritarisme, la volonté d'un groupe d'hommes et en général d'une minorité de régir la vie des autres, si vous ne parlez pas aux enfants de la corruption, si on n'enseigne pas ça, on considère que c'est un acquis, on s'en fout. Et la situation aujourd'hui, aujourd'hui, j'en parle avec plus de force, parce que quand j'ai sorti le premier tome et que je disais que la Russie allait envahir l'Europe, les gens se marraient. Mais les journalistes à qui je parlais de ça se marraient. Et je disais à des journalistes, mais écoutez, à votre avis, pourquoi Poutine est allé donner un coup de main à Bachar al-Assad? C'est pas les richesses de la Syrie qui l'a poussé à faire ça. Poutine est allé donner un coup de main à Bachar al-Assad parce que en maintenant la guerre en Syrie, Poutine provoque des flux migratoires vers l'Europe et qui sait très très bien que c'est le talon d'Achille de l'Europe et que le meilleur moyen de déstabiliser les démocraties européennes, c'est d'envoyer des flux migratoires vers l'Europe parce que les populations européennes ne seront pas capables de les gérer. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, au moment où Poutine amassait ses armées devant l'Ukraine, eh ben, vous aviez quand même, pardon, et ce n'est pas du tout une question d'être de gauche ou de droite, mais vous aviez deux grands représentants de formations politiques, Mélenchon et Le Pen, qui donnaient toutes les raisons et toutes justifications à Poutine en disant que c'était nous les monstres. C'était l'OTAN qui avait humilié la Russie. Mais, pardon, mais ils n'avaient pas vu les massacres qui s'étaient passés en Syrie. Je sais que je l'ai déjà dit au début. Et nous, quand on les écoutait, on ne les avait pas vus, ces massacres en Syrie. Mais il y a quand même plein de gens qui sont allés voter pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont rentrés au Parlement. Donc, c'est les mêmes. Donc, c'est quoi l'éducation, à un moment donné, des enfants en politique? C'est de leur expliquer à quoi ça sert de voter. Si vous votez... En Israël, ils viennent de remettre Netanyahou au pouvoir. Bon, Netanyahou, il s'est représenté parce qu'il allait être condamné pour fait de corruption. Bah, écoutez, si au milieu de 60 millions d'habitants, les gens que vous mettez au pouvoir sont des gens qui ont déjà été condamnés pour corruption, bah, oui, à un moment donné, il y a des questions, vous voyez, que vous pouvez poser en disant c'est ce qu'on a de mieux à proposer, c'est ce qu'on a de mieux comme choix. Ben voilà, j'ai écrit ces trois romans parce que je pense que la démocratie est extrêmement fragile et que s'il n'y a pas aujourd'hui un vrai réveil... Alors heureusement, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la barbarie de Poutine s'est enfin révélée, ses mensonges se sont exprimés et finalement, ça a quand même provoqué au niveau de l'Europe... Un réveil, vous voyez, un réveil, un vrai sursaut. Et tout à coup, on s'est dit, ah merde, oh là, c'était pas du tout aussi cool que nous le disaient Mélenchon et Le Pen juste avant l'élection présidentielle. En fait, non, il s'agit bien d'un dictateur qui veut essayer d'envahir l'Europe et qui aurait poursuivi sa guerre et qui aurait envahi la Lituanie et qui aurait envahi la Géorgie et qui serait arrivé, s'il l'avait pu, aux portes de Paris sans la moindre inquiétude. Donc voilà, c'est ça au moins, c'est cet espoir-là.
C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez constaté une forme d'évolution entre le moment où vous avez commencé à écrire ce livre et la publication du troisième tome cette année? Est-ce que quand même il y a une prise de conscience de tous ces sujets? Est-ce qu'on est à un moment charnière?
Oui, enfin, ce qui a évolué, ça n'a rien à voir avec mes livres. Mais la Russie avait dépensé énormément d'argent et énormément de moyens pour essayer de détruire l'Europe. Quand je dis détruire l'Europe, c'est-à-dire de déconstruire l'Europe. Pourquoi ? Parce que les grandes oligarchies américaines, les grandes oligarchies chinoises et les grandes oligarchies russes, ou on peut dire, si vous voulez, les grandes oligarchies américaines, le régime chinois et le régime russe, sont eux conscients, ce dont nous, Européens, on était moins conscients, que à 350 millions de voix, on est plus fort que, vous voyez, à 52 millions. Et les Anglais, ils ont joué la carte, ils ont écouté les sirènes du nationalisme, et aujourd'hui, quand même, ils se sentent très bêtes, quoi.
Oui, ils s'en mordent les doigts.
Non, mais franchement, enfin, même les plus pro-Brexit aujourd'hui, ils font pas les marioles, ils ont vachement de mal quand même à dire que c'était une bonne idée. C'est-à-dire que tout à coup, les Anglais ont découvert que tout seuls, ils sont moins forts que quand ils étaient que nous tous. Et c'est un truc qu'on apprend assez jeune, même dans la rue, quoi. S'il y a une baston, on est plus fort à vaincre tout seul en général, bref. Et Poutine a dépensé énormément d'argent et a dépensé énormément de moyens pour essayer de déconstruire l'Union européenne. Donc il y a eu l'ingérence de la Russie dans le Brexit, qui est colossale, que je raconte beaucoup dans le roman. Et par quels moyens ils y sont arrivés, notamment grâce à un millionnaire anglais extrêmement corrompu et qui a été la main armée, je dirais, de Poutine en Angleterre, et son complice, Nigel Farage, hein, qui est le frère jumeau de Marine Le Pen. Ils ont les mêmes copains, les mêmes alliances et les mêmes... Parce que, encore une fois, hein, je ne suis pas du tout en train de faire de politique. Et je respecte le choix et le vote de tout le monde. Mais c'est vachement important de donner la vraie information. Donc, par exemple, il y a une information qui a été donnée, c'est que le Front National a été pendant très longtemps financé par Poutine et par des banques russes. Bon, après, vous avez la Russie qui rentre en Ukraine. Et on a le droit de demander à un candidat qui défend les valeurs de la nation en lui disant, mais je ne comprends pas, parce que si vous parlez de l'indépendance de la nation, pourquoi vous êtes financé par une nation belligérante qui n'a qu'un seul envie, c'est détruire notre propre nation. Et on en revient aux Daladiers qui allaient faire allégeance devant Hitler et à ceux qui ont trouvé que le régime de Vichy, c'était formidable et que Pétain était un type génial et que 60 millions de morts, c'était pas grave du moment qu'on était nationaliste. Bien que pour moi, je pense que là, une grande différence entre le nationalisme et le patriotisme, c'est le fait d'aimer son pays, et le nationalisme, c'est le fait de détester les autres. Et ça, c'est vrai sur à peu près 1000 ans d'histoire, donc c'est un autre débat, et qui encore une fois est totalement apolitique, qui est seulement historique. Donc oui, ce que j'ai vu changer, c'est que l'évidente agression de la Russie sur l'Ukraine et le fait que quand même les esprits et les langues s'ouvrent sur jusqu'où ça serait allé si on ne l'avait pas arrêté. Et l'extraordinaire constat que pour la première fois, l'Europe se sentant vraiment en danger a mis des moyens. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on assiste à ce ballet de diplomates, vous voyez, qui font des condamnations et qui regrettent que, comme aux États-Unis, vous savez, à chaque fois qu'il y a une tuerie dans une école, les républicains disent « l'heure n'est pas à la polémique, mais à la prière ». Et donc, les massacres se reproduisent. Tout à coup, l'Europe s'est mise à réagir et on est sorti de nos gonds et on est devenu, comment vous dire, un bloc soudé et on a mis de côté nos désaccords et on a fourni des armes à l'Ukraine et on a soutenu l'Ukraine à fond et on a fait un blocus de la Russie. Et bien finalement, 6 mois plus tard, la grande armée russe qui devait tous nous écraser, vous voyez, c'est pas ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, c'est un petit pays comme l'Ukraine tient largement la face à un grand pays comme la Russie, mais qui s'avère être un pays dont les institutions, à force de corruption, sont extrêmement gangrénées de l'intérieur et pas aussi fortes qu'elles le croient. Et si l'Europe n'avait pas résisté comme on a résisté, l'Ukraine aurait été balayée comme la Crimée a été balayée. Aujourd'hui, les armées russes seraient en Lituanie. Et avant l'hiver, elles seraient rentrées en Géorgie. Et on serait tous en train de vivre un nouvel ordre mondial où le nouvel empire russe reconstitué en ayant pris ses mesures sur l'Europe aurait probablement convaincu la Turquie de se joindre à eux, puisque nous n'avons pas voulu de la Turquie en Europe. On vous voyait l'incidence notamment sur le prix du gaz et du pétrole quand on ferme les robinets avec la Russie. Donc, je pense qu'au moins ça va peut-être changer l'ordre du monde.
Et dans cette prise de conscience progressive, est-ce que les romanciers, justement, à leur niveau, ont un petit rôle à jouer d'engagement, de prise de conscience, de peut-être à travers les histoires qu'ils racontent, de montrer aussi que tout n'est pas comme on le croit?
Moi, je ne crois pas. Moi, j'ai toujours fait. Enfin, il ne faut pas donner de leçons de morale. La morale, elle appartient à chacun d'entre nous. Et quand on raconte une histoire, on l'incarne. Si vous voulez, moi, quand j'avais 18 ans, je suis rentré à la Croix-Rouge. Et je travaillais dans une équipe de désincarcération routière. Alors, j'ai passé 6 ans et demi, et avec les copains, on avait fait le calcul, on en a fait 17 000 interventions. Quand on revenait d'un accident de la route, et qu'il y avait eu, dans une voiture, 3 morts, on était traumatisés. Et quand je vous dis qu'on était traumatisés, on ne pouvait pas parler pendant 2 jours. Parce que 3 cadavres, c'est monstrueux. Et puis, quand la prévention routière disait à la télévision qu'il y avait 17 000 morts par an sur les routes, la majorité des gens disaient « Ne me faites pas chier, moi, j'ai pas envie de mettre de ceinture de sécurité. » Vous voyez ? Puis, j'ai pas du tout envie de rouler à 130 ou à 120. Je suis libre, moi. Mais pourquoi ? Parce que 17 000 morts, ça voulait rien dire, quoi. Alors, le jour où vous en avez eu 2 dans les mains, vous savez ce que ça veut dire. Parce que vous avez vu des vraies personnes, vous avez vu des vrais gens, vous avez vu des histoires, Vous avez vu des mères qui hurlent de douleur parce que leur gamin, parce que vous allez leur dire que leur gamin ne rentrera pas à la maison. Vous voyez des gens dont les vies sont brisées dans des voitures. Et pourquoi est-ce que ça vous bouleverse? Parce que c'est incarné. Parce que ça vous raconte une histoire. Mais quand le présentateur à la télévision il dit il y a 17 000 morts, c'est un chiffre. Si je vous dis aujourd'hui qu'il y a 25 000 civils ukrainiens qui sont morts, bon, c'est beaucoup, hein, mais quand vous voyez une femme ukrainienne, voyez, et que vous voyez qu'elle pleure et qu'elle vous raconte sa douleur et qu'elle vous dit « ma fille, elle était enseignante, elle était maîtresse d'école, vous voyez ce que je veux dire, elle enseignait à 35 élèves, et puis elle est morte à 28 ans, et qu'elle vous montre une photo de sa fille, elle vous a raconté une histoire, et tout à coup... vous prenez conscience de ce qui se passe en Ukraine et vous prenez conscience de la barbarie de ceux qui ont tué cette jeune femme enseignante de 28 ans. C'est plus 25 000 morts. C'est 25 000 Elsa, Roger, Franck, Martine. Bah, le romancier, il fait ça. Il fait juste ça. Il raconte une histoire. Et il faut simplement que, comme l'a dit de façon merveilleuse Boris Vian, quand il dit « cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée du début jusqu'à la fin ». Et c'est ça le métier du romancier, c'est de donner, c'est de donner vie et émotion à des faits et puis de nous faire ressentir, mais pas de nous faire des leçons de morale. Mmh.
On va finir là-dessus, parce que malheureusement, on est pris par le temps. Peut-être quand même un petit mot sur votre livre qui va paraître. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelle histoire vous avez voulu raconter dans ce nouveau livre?
Je vous en ai amené un pour vous.
Ah.
Hop. Je vais y arriver.
En exclusivité.
Et voilà. Et il sortira le 23 novembre. Alors là, ça n'a rien à voir, c'est un roman d'amour. Mais c'est vraiment un roman d'amour. Et c'est que ça. Et il n'y a pas de polémique. Il n'y a que du merveilleux. Enfin, du merveilleux. Ça, je ne suis pas en train de me faire de compliments. Du merveilleux, entre guillemets. C'est-à-dire, vous voyez, comme la barbe à papa, ça peut être merveilleux. Vous voyez où. Et c'est juste un roman d'amour.
Il y avait besoin.
Ah. Alors, le titre, c'est Éteignez tout et la vie s'allume.
Notez bien ça. Je crois que c'est le 22 novembre, il me semble.
Oui, c'est le 22 novembre. Et
il y avait besoin d'un peu de douceur après tout ça.
Alors, je vais vous dire, c'est fou parce que j'avais pas du tout prévu d'écrire ce roman. Et puis, mon éditrice m'appelle le 15 août. Elle est anglaise, elle a beaucoup d'humour. Et je venais de lui expliquer que j'étais vraiment crevé et que d'avoir écrit la trilogie de Noah plus le travail qu'on avait fait tout l'été dernier sur la série Toutes ces choses... Vous voyez que là, j'avais vraiment besoin de souffler. Et donc, deux jours après, elle m'appelle en me disant « t'écrirais pas un roman pour la fin de l'année ?» Et donc, j'ai cru qu'elle plaisantait. Et j'ai dit « oui, bien sûr ». Et puis...
C'est de l'esclavagisme.
Non, mais bon. Et puis, c'est marrant parce que je me suis mis à l'écrire. Enfin bon, mais c'est le cuisinier à qui vous dit « tu ferais pas une tarte ?» à la fin du service, vous voyez, toute la salle est rangée, et vous dites, tu ne feras pas une tarte. Et donc, au début, il vous dit non, je ne ferai pas une tarte parce que c'est fermé. Et puis après, il se dit merde, quand même, une tarte. Donc, il rentre dans la cuisine, il regarde s'il y a de la farine, vous voyez, et vous le retrouvez à 2h du matin en train de couper les poires. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que je me suis mis à mon ordinateur, à mon clavier, en me disant, même pas en rêve, j'écris un roman. Et là, il s'est passé une chose, c'est que. J'ai rencontré Adèle et Jérémy, qui sont les personnages du roman. Et en fait, je suis d'abord parti avec lui. Et puis très vite, elle arrive dans l'histoire. Et je l'ai rencontrée, elle. Et je n'ai pas pu les quitter. Et je me suis mis à écrire. Et ça a été, comment vous dire, j'arrivais pas à m'arrêter. J'ai écrit ce roman d'une traite. Je l'ai écrit en 6 semaines. Et voilà, et c'est parti quoi. J'ai pas pu, je pouvais pas les lâcher. Et ce que je peux vous dire, je sais pas du tout si c'est bien ou si c'est pas bien, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça m'a fait un bien de l'écrire. Vous n'avez pas idée. J'ai rarement été aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi. Comment vous dire, heureux et apaisé que pendant que j'écrivais ce roman. C'était un bonheur tous les jours de les retrouver et de poursuivre la route avec eux. Et voilà. Et bon, malheureusement, une histoire, elle a. Quand on écrit, on sent les équilibres d'une histoire. Vous savez. Il y a un tempo, il y a un rythme, il y a une musique qui s'installe, et j'imagine que c'est comme quand un musicien compose un concerto, vous voyez, il sait s'il y a 10 minutes de trop ou 10 minutes de, ou tout du moins quand il faut poser la dernière mesure. Et donc elle est arrivée assez vite, puisque c'est un roman qui fait un peu plus de 200 pages, alors que d'habitude mes romans font 300-400, mais là... Voilà, il y avait une espèce d'intimité autour des personnages qui imposait de se retirer, de les laisser. Et
c'est sûr que ça nous fera du bien à nous aussi.
Je ne sais pas, vous verrez.
On va peut-être prendre quelques minutes pour prendre une ou deux questions avant d'en terminer. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Marc Lévy. Toujours la première, la plus difficile. Hein. Ah.
Le plus facile, je pense que c'est le premier, parce que je me rendais pas, je n'avais pas du tout, j'avais pas la moindre idée que j'étais en train d'écrire un roman. Tout dépend ce que vous voulez dire par facile, parce qu'il y a différents. Parfois, un roman, il est difficile à écrire parce que vous vous demandez en permanence qu'est-ce qui va se passer. Et donc, il y a un travail de comment on veut dire, qui vous complique la vie, qui est de résoudre les nœuds de l'histoire. Parfois, un roman est difficile parce que, parce qu'il vous fait du mal en l'écrivant. Moi, alors, écrire Les Enfants de la Liberté, c'était d'un point de vue narration. Facile, parce que je connaissais l'histoire du début jusqu'à la fin, et j'ai jamais été aussi malheureux dans l'écriture d'un roman qu'en écrivant ce roman-là, parce que c'était, comment vous dire, psychologiquement, j'étais à Londres, et j'écrivais l'histoire de mon père, qui avait l'âge qu'avait mon fils qui était en face de moi. Même quand vous racontez ça à un psy, il vous dit « Oula !» Il se dit, oulala, ça, cet été, je m'offre un cabriolet avec lui. Non, mais vous voyez, non, ce que je veux dire par là, c'est que, blague à part, c'est quand vous racontez une scène de torture et que c'est votre père qui est assis sur la chaise, je peux vous dire que, vous voyez, vous avez la doc d'un côté, vous avez les témoignages de l'autre, faut y aller, quoi. C'est pas du tout la même chose que d'écrire un roman d'amour. Donc ça, par exemple, c'était très difficile. Alors que l'écriture en elle-même du roman, comment dire, il y a... J'arrêtais d'écrire le soir parce qu'il fallait que j'aille me coucher. Mais alors qu'il y a d'autres romans où vous arrêtez le soir parce que vous êtes terrifiant, vous dites mais qu'est-ce que je vais écrire demain ? Il y a des romans, quand j'ai écrit Le Premier Jour et La Première Nuit, donc je démarre le roman, j'adore l'idée, j'avais envie de faire un roman un peu à l'univers Tintin, c'est-à-dire ces romans d'aventure. Pas Les Aventuriers de l'Arche Perdue, mais enfin un petit peu ça quand même, voyez, ces romans où vraiment c'est du pur voyage, de la découverte, du plaisir. Et je pars avec mes deux protagonistes, donc elle est archéologue et lui il est astrophysicien. Et moi j'ai eu 4 ans physique au bac. Et donc, mais je me rends compte que, je m'en rappelle si vous voulez, qu'à 50 pages du livre. Et à 50 pages du livre, je me dis, mais comment je vais faire ? Les personnages sont 100 fois plus intelligents que moi, comment je vais faire ? Et donc, c'était très difficile. Alors, j'ai eu la chance j'ai contacté un astrophysicien qui travaillait vraiment à Atacama, qui a été d'une générosité folle, et donc, il m'a éduqué. Mais oui, quand j'achetais des livres d'astrophysique, je ne comprenais même pas ce qui était écrit sur la page. Donc, pour s'éduquer, c'était très difficile. Ça m'a pris un temps fou. Bon, j'y suis arrivé, Dieu merci. Donc, comment vous dire, les difficultés, elles sont... le roman... que j'ai écrit, les deux romans qui m'ont posé le moins de difficultés, où je dirais, où je suis parti, vous voyez, enfin, c'était, ou les trois, c'est L'étrange voyage de Monsieur Daldry, Le voleur d'ombre et Éteignez tout et la vie s'allume. Où voilà, là il y avait un certain nombre de facteurs assez, enfin oui c'est ça, où il n'y a pas de, où il n'y a pas eu, vous voyez, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit je vais pas y arriver.
Pas de doute, quoi, en fait.
Enfin, Éteignez tout, si j'ai douté à chaque pas, je me disais c'est pas un livre, c'est pas un livre, ça va pas être un livre. Mais je prenais beaucoup de plaisir à l'écrire quand même. Vous voyez? Mais sinon, voilà. Enfin, j'espère que j'ai répondu à votre question.
Oui, merci. J'ai juste un petit, une autre petite question. Est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de la page blanche?
Ah, mais tous les jours.
D'accord.
Non, mais tous les jours. On l'a tous les jours. C'est, enfin, quand je dis tous les jours. Il faut qu'on défi, enfin, il faut bien définir ce que c'est que le syndrome de la page blanche. Ce dont on a beaucoup parlé. En littérature, quand on parle du syndrome de la page blanche, c'est lorsqu'un auteur est confronté à une disparition de son inspiration. Donc là, en fait, c'est pas le syndrome de la page blanche, c'est le syndrome du livre blanc. C'est-à-dire que... Non, non, mais un certain nombre d'auteurs ont connu ça dans sa vie. Un écrivain, c'est quand même un être humain. Donc à un moment donné, dans la vie, il y a des moments de votre vie où vous avez un événement, un décès, comment vous dire, un divorce, une maladie, enfin quelque chose qui fait qu'à un moment donné, votre esprit, vous n'arrivez plus à écrire. Alors je touche du bois. Mais c'est arrivé à un certain nombre d'auteurs. Et parfois, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis finalement, ils retrouvent l'inspiration. Et puis vous avez d'ailleurs des auteurs qui arrêtent d'écrire parce qu'à un moment donné, l'inspiration, elle est partie. Ça, c'est le. En fait, sans le savoir, c'est ce à quoi on fait référence quand on parle du syndrome de la page blanche. Mais le syndrome de la page blanche qui consiste pour un écrivain à ne pas savoir ce qu'il va écrire le lendemain, écoutez, il y a très très peu de métiers où vous savez en permanence ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Alors, le syndrome de la page blanche, c'est le chirurgien cardiovasculaire, est beaucoup plus angoissant que chez l'écrivain parce que, bon, vous voyez, une fois que le type est ouvert, si... Oui, il se retourne vers son collègue, il fait, mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On fait d'ailleurs, je dis pas. Là, ça a des conséquences, vous voyez, il y a une espèce d'urgence. Alors que, bon, ben, moi, dans mon métier, vous voyez, si vous ne savez pas ce que vous faites, bon, ben, vous allez promener le chien pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis au bout d'un moment, il y a tout à coup, ah ben oui, c'est ça. Donc, je ne vous dis pas que c'est marrant à vivre. Hein. C'est-à-dire, quand on est, vous voyez, bloqué, alors il y a des petits trucs en écriture. Par exemple, moi, je ne termine jamais un chapitre avant d'aller me coucher. Parce que si vous terminez un chapitre avant d'aller vous coucher, quand vous recommencez le lendemain, vous recommencez un nouveau chapitre. Donc, en fait, vous voyez, vous êtes froid et vous recommencez un nouveau chapitre. Alors qu'en général, quand vous arrivez à la fin d'un chapitre, vous savez ce qui va se passer à la fin du chapitre. Donc vous vous gardez les 4-5 dernières pages, vous allez vous coucher, le lendemain matin, à froid, bah, vous, en fait c'est comme un vélo, hein, à froid vous vous mettez dans une descente, et du coup bah, quand vous êtes en bas de la descente, vous voyez, l'esprit est plus en éveil, et c'est beaucoup plus facile de rentrer dans le chapitre d'après. Alors il y a des petites astuces comme ça, c'est très difficile en écriture de se parler tout seul, on n'y arrive pas. Non, mais je voulais se raconter à soi-même l'histoire. Moi, quand j'ai une angoisse de page blanche, j'appelle mon éditrice, et en général, à un moment de la journée où ça ne l'arrange pas du tout, et je lui dis, je vais te raconter le prochain chapitre. Et alors là, vous voyez, vous commencez à discuter à voix haute, et parfois, elle me pose des questions, parfois elle pose l'écouteur et elle fait ses mots croisés, mais le simple fait de raconter l'histoire à voix haute, ça... Oui, ça met les choses en place et du coup, vous dites, c'est bon, et hop, vous vous remettez à écrire. Donc, ce syndrome de la page blanche dont on fait des caisses, comment vous dire, c'est, vous voyez, c'est le syndrome du boulanger qui se dit, j'espère que ma pâte va lever. Enfin, c'est un attribut de tous les métiers, il ne faut pas en faire un drame, quoi.
On va
Merci
s'arrêter
beaucoup.
là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. Malheureusement, on est pris par le temps. Je vais me faire taper sur les doigts sinon. Merci beaucoup, Marc Lavie.
Merci à vous tous.
Et merci à vous. Merci.